notre méditation de ce matin se trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 9, verset 18. Luc, chapitre 9, verset 51 jusqu'au verset 62. Au nom de Jésus. Lorsque le moment approcha où Jésus devait être enlevé au ciel, il décida fermement de se rendre à Jérusalem. Il envoya des messagers devant lui. Ceux-ci partirent et entrèrent dans un village de Samarie pour lui préparer tout le nécessaire. Mais les habitants refusèrent de le recevoir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Quand les disciples Jacques et Jean apprirent cela, ils dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions au feu de descendre du ciel et de les exterminer ?» Jésus se tourna vers eux et leur fit des reproches. Et ils allèrent dans un autre village. Ils étaient en chemin lorsqu'un homme dit à Jésus « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui dit, « Les renards ont des terriers et les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse se coucher et se reposer. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » Mais l'homme dit, « Maître, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Jésus lui répondit, « Laisse les morts enterrer leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre homme encore dit, « Je te suivrai, maître, mais permets-moi d'aller d'abord dire adieu à ma famille. » Jésus lui déclara, « Celui qui se met à labourer, puis regarde en arrière, n'est d'aucune utilité pour le royaume de Dieu. » Amen. Avant de faire la prédication, je vous demanderai qu'on chante encore « Seigneur, Esprit de sainteté, viens, Esprit de sainteté. »
Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser.
Oui, chers frères et sœurs, oui, oui, mais à une certaine condition. Ici, quand on regarde ce texte, ça pourrait nous choquer, les réponses que Jésus a données. Comme si il demandait quelque chose de contre-nature. Quelqu'un qui va devoir encore enterrer ses parents. Mais quelle était la réponse que Jésus a donnée? Jésus lui répondit, « Laisse les morts enterrer leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Si on écoute ça, c'est comme si Jésus foule aux pieds le respect qu'on devrait avoir pour les parents. Mais non, il faut faire attention pour ce genre de lecture parce que, rappelez-vous, Jésus lui-même a dit aux gens, surtout aux pharisiens, si par prétexte vous ne voulez pas aider vos parents, et vous vous cachez derrière la loi que ce sacrifice ou cette offrande est corban, c'est-à-dire une offrande qui a été préparée, qui a été mise de côté, rien que pour l'Éternel. Mais juste à ce moment-là, vous entendez que un de vos parents sont en difficulté, ils sont malades. Qu'est-ce que vous allez faire? Et là, certains pharisiens et sanhédrins essayaient de justifier leur réponse en disant, mais ce sacrifice a été déjà mis à part. Mais pourquoi alors Jésus ici dit que voilà, laisse les morts enterrer leurs morts? Dans la pratique juive, quand il y a un mort, à ce moment-là, Il y a déjà des personnes qui sont destinées pour préparer le corps. Et ce fils, lui, c'est pas sa place de le faire. Le moment venu où il faut mettre le corps dans le tombeau, c'est là qu'il doit venir pour voir où est-ce qu'on l'a mis. Et donc ici, c'était un faux prétexte. Un faux prétexte pour esquiver encore en plus cet appel que Dieu a donné. Et ça aussi, c'est un peu notre genre, dans notre façon de répondre. Parfois, nos réponses sont logiques, c'est humain, mais Dieu sait ce que nous avons derrière nos réponses. On se cache derrière certaines situations. Une autre réponse ici, un homme, un exemple que Jésus a pris, un autre homme dit encore, « Je te suivrai, maître, mais permets-moi d'abord d'aller dire adieu à ma famille. » Et Jésus lui déclara, « Celui qui se met à labourer, puis regarde en arrière, n'est d'aucune utilité pour le royaume de Dieu. » Là, c'est un peu difficile à comprendre, cette partie-là, mais il faudrait revoir ce texte dans 1 Roi 19. C'est l'histoire d'Élisée. Quand Élie est venu vers lui pour l'appeler pour cette mission, et lui, il était en train de labourer. Et à ce moment-là, quand Élie a appelé Élisée, il avait fait cette phrase-là pour dire, écoute, laisse-moi d'abord partir chez ma famille pour leur dire au revoir. Et Élie a répondu, mais je t'ai rien demandé. Et qu'est-ce que Élisée a fait tout de suite? Il a arrêté de labourer, il a tué les 2 bœufs pour faire une offrande. Et il a partagé cela avec toutes les personnes qui étaient autour de lui. Et avec quel bois qu'il a préparé tout cela? C'était la charrue même qu'il a cassée et qu'il a fait un feu avec. Instantanément, sans aller dire au revoir même à sa famille, il a décidé de faire ainsi. Et là, vous voyez les 2 catégories de personnes qui entendent l'appel de Dieu. Souvent on dit, mais il faut avoir une vocation, il faut avoir un appel spécial pour aller servir le Seigneur. Tout le monde, chers frères et sœurs en Christ, tout le monde a reçu un appel. On ne peut pas dire qu'il n'y a qu'une seule catégorie de personnes qui reçoivent un appel. Tout le monde reçoit un appel. Mais maintenant, la réponse qu'on peut donner est différente. Il y a ceux qui se disent encore, j'ai encore beaucoup de choses à faire. Je me rappelle bien d'un tract qui m'a interpellé ou quand je me suis encore posé des questions pour ma vocation pastorale, qui me faisait beaucoup de bien et qui disait par exemple, notre vie c'est comme un film, dit-il. Quand on est encore tout bébé, je suis encore trop petit pour cela. Attends quand je serai plus jeune. Une fois arrivé à l'adolescence, je suis encore trop jeune pour ça. J'ai encore pas mal de programmes à faire. Laisse-moi peut-être au moment où je pourrai mûrir dans la vie, arriver à l'âge adulte, je suis encore trop occupé. J'ai un emploi du temps chargé. Je dois faire ceci, je dois faire cela. Attends plus tard. Arrivé à un certain moment de la vie, je suis trop vieux. Je ne peux plus courir comme les jeunes. Je ne peux plus le faire. Je suis limité dans mon corps. Et le dernier jour sur le lit de mort, trop tard, dit le Seigneur. J'espère que nous aurons un moment pour dire, oui Seigneur, c'est le moment. Il ne faut pas regarder à gauche et à droite, il ne faut pas se comparer aux autres. Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Pourquoi Dieu me choisit maintenant? Je me rappelle encore, au moment où j'allais au séminaire, j'étais le plus jeune de ma promotion. Et même les responsables et les profs nous disaient, est-ce que tu es sûr que tu es fait pour ça? Est-ce que tu ne dois pas encore faire autre chose pour revenir plus tard, après quelques années? Oui, j'ai posé aussi cette question-là à moi-même pendant des années, mais plus j'ai dit « Attends Seigneur », plus ce cri ne cessait en moi, jusqu'à ce que j'ai dit « Oui ». Mais chacun a sa vocation. La vocation, disait un des réformateurs, c'est pas devenir pasteur ou évangéliste ou missionnaire. Une vocation, c'est comme une station, dit-il. Là où tu es, là où tu habites, là où tu vis, tu as une vocation. Et c'est là que Dieu t'appelle pour témoigner de son évangile. Peut-être que tu travailles dans un milieu commercial, dans un milieu de santé, dans un milieu militaire, dans un milieu où on peut témoigner le Christ. C'est là que le Seigneur a besoin de toi. C'est là que tu dois te lever pour lui, comme Élisée. C'est vrai que nous n'avons pas toutes les capacités comme les autres prophètes et les grands serviteurs de Dieu. Mais justement, le critère que Dieu a mis en place pour choisir son serviteur, c'est le fait de se dire « j'ai pas les moyens de le faire ». Seuls ces gens-là qui pourront assumer la responsabilité jusqu'au bout. Ceux qui se diront « oui, je peux le faire parce que j'ai ceci et j'ai cela », à un certain moment, ils vont jeter l'éponge. Nous avons reçu une lettre au niveau de l'EPUB. Chaque pasteur de l'EPUB a reçu une lettre de la part du président de l'EPUB qui disait « cher pasteur de l'EPUB, faites attention à la maladie qui se propage actuellement au niveau de tous les responsables d'église, le burn-out des prêtres, le burn-out des pasteurs. » Je me suis posé des questions, mais comment est-ce possible qu'on puisse avoir un burn-out dans ce ministère? Est-ce que c'est un poids de servir le Christ ou c'est un honneur? Pour moi, c'est un honneur. Parce que normalement, je ne suis pas fait pour ça. Mais pourquoi le regard de Dieu s'est jeté sur moi un jour? Oui, toi, je t'ai choisi. Et on se regarde dans le miroir pour dire, mais quelles sont mes qualités? Je n'ai rien à te donner, Seigneur. Mais justement, c'est parce qu'on n'a rien qu'on peut recevoir. C'est parce qu'on est petit que la grandeur de Dieu peut se révéler. Mais quand on arrive à un certain moment où on croit qu'on peut tout faire, alors là, la grâce est loin. La grâce est difficile à comprendre. Ici, si on revient à notre texte de tout à l'heure, il y a quelque chose qui est typiquement dans notre façon d'agir en tant qu'être humain. Regardez Jean et Jacques. Dès que cette ville n'a pas accepté le passage du Christ, quelle est la réaction? On va demander le feu pour détruire ce village. Parfois, quand on est pris dans une passion dévorante pour le Seigneur, on peut même faire du n'importe quoi dans ce ministère. Normalement, on devrait apporter la joie et la vie aux gens, mais on devient un instrument de malédiction. Est-ce cela que Dieu a permis de faire pour nous? De détruire. Nous sommes appelés à donner la vie là où il y a la mort. Nous sommes appelés à la relever ceux qui sont dans le trou. Mais ce qui est bizarre parfois quand on est envoyé et quand on est sur le chemin de la mission, c'est le contraire qu'on fait. On ne fait qu'accabler les gens. On ne fait que les juger. On ne fait que les condamner. Est ça la mission que Dieu nous a donnée? Pourquoi Jésus a-t-il eu beaucoup de monde qui le suivait? C'est pas parce que quand il voyait la personne, il la voyait en tant que personne, avant de le voir comme un pécheur. Nous, quand on regarde quelqu'un, tout de suite, c'est le pécheur qu'on voit. C'est ce qu'il a fait. Son passé. Comme les Samaritains ici. Les Samaritains qui ont un passé très lourd. Et c'était le problème. Et là, Jacques et Jean ont profité de l'occasion pour dire, là, c'est le moyen de les exterminer. Mais au fond d'eux, quelle était la motivation? Ils haïssaient les Samaritains. Ce sont des vrais Juifs qui détestaient leurs frères. Et donc, ils voulaient instrumentaliser la mission que Dieu les a donnée pour régler leur compte. Et c'est ça qui est honteux. Une mission saine que Dieu les a donnée était une mission pour donner la vie. Mais eux, ils l'ont transformée. Ils l'ont voulu transformer pour détruire. Et là, quelle était la réaction de Jésus? Tout à coup, il les a pris et les a remis à leur place. Au moment où si on commence dans ce ministère, dans le travail où Dieu nous donne, parfois, nous, on croyait qu'on donnait la vie aux gens, mais parfois, on a détruit pas mal de vies. Et je me rappelle aussi, cette étape-là, c'est une étape au tout début. Tellement on est passionné qu'on détruit tout sur notre passage. Mais est-ce que c'est là que Dieu veut? C'est à nous de poser la question dans nos vies. Amen.